Le vendredi 25 mars, Monsieur Le Bleu, ingénieur dans l'entreprise Thales Alenia Space, est venu faire une intervention dans quelques classes du collège, notamment dans celle de Madame Bertimbro, professeure d'histoire-géographie EMC. Nous avons profité de cette occasion pour lui poser quelques questions à propos de deux sujets abordés avec lui, les déchets dans l'espace et le projet Stratobus.
Tout d'abord, vous nous avez envoyé un mail le vendredi 15 mars 2019. Est-ce un hasard ou y avait-il une occasion spéciale ?
Alors le 15 mars, c'était la journée du climat. Donc effectivement, c'était l'occasion de prendre contact avec vous et en même temps de mettre l'accent sur cette journée particulière des actions pour le climat qui sont en lien avec les activités que je mène au sein de la société à laquelle j'appartiens.
Nous allons commencer par le premier sujet, les déchets dans l'espace. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un déchet spatial ? À quoi cela ressemble ?
Alors, un déchet spatial, déjà, on utilise un autre mot, on dit débris, souvent. Donc, les débris spatiaux sont en fait les restes de fusées ou de satellites qui ont, dans le cadre des fusées, servi à envoyer des satellites dans l'espace ou des hommes, dans le cadre, par exemple, des missions Apollo qui ont envoyé des hommes vers la Lune. Certaines parties des fusées sont restées en orbite autour de la Terre et ne sont pas parties vers la Lune. Des satellites aussi qui ont été autour de la Terre et qui aujourd'hui ne fonctionnent plus et qui sont restés là. Et donc il y a quelques gros objets, donc ça peut être dans le cadre des parties de fusées, des cylindres qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres de long, ou des satellites qui sont gros comme une armoire. Mais ce qu'il y a, c'est que ces objets en fait se sont rencontrés les uns les autres, sont tapés les uns contre les autres, et en fait ils sont cassés en petits morceaux. Un peu comme lorsqu'on lâche une assiette, on la fait tomber par terre, et elle se casse en plein de morceaux. Ça s'est fait plein de fois, et ce qui fait que ces gros morceaux, en fait, se sont cassés en plein de petits, et c'est pour ça qu'on utilise le mot débris. Donc ça peut être aujourd'hui des gros morceaux comme des morceaux de panneaux, comme une porte, la taille d'une porte d'armoire, comme la taille d'une table, jusqu'à des morceaux très petits comme des écailles de peinture. Et les gros morceaux comme de la taille d'une table, on peut facilement les voir, les repérer avec des radars, par exemple, depuis le sol, alors que des éclats de peinture, c'est tout petit et on ne sait pas.
Et combien de débris y a-t-il environ dans l'espace ?
Alors aujourd'hui, on estime ce que l'on peut voir, enfin, quand je dis voir, c'est détecter, on estime qu'il y en a entre 17 000 et 20 000 dans l'espace. On estime que des plus petits, il doit y en avoir autour de 50 000. Ça a l'air beaucoup, en même temps, ils sont répartis autour de la Terre. Donc ça ne fait pas un nuage qui empêche de voir à travers. Lorsqu'on voit des photos, par exemple, faites par les astronautes, comme Thomas Pesquet, on ne les voit pas, ces débris. On voit la Terre. Donc ils existent, c'est un problème, mais il faut qu'on fasse attention avant que ça devienne dangereux.
Peut-on les trier, ces débris ? Y a-t-il une solution pour qu'ils se désintègrent ?
Alors, les débris qui sont à très basse altitude, c'est-à-dire ceux qui ont servi pour des fusées, par exemple, on pense qu'ils devraient retomber sur la Terre et en fait brûler dans l'atmosphère lorsqu'ils vont revenir sur la Terre. Et donc, il n'y aura plus rien qui touchera le sol. Et ça, entre 20 et 30 ans, à peu près. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont plus hauts en altitude, autour de 500 ou 1000 km de distance par rapport au sol. Et ceux-là, ils vont finir par retomber sur la Terre, mais dans beaucoup plus longtemps que ça, dans 100 ou 200 ans. Et donc aujourd'hui, ils sont là. On ne va pas vraiment pouvoir les faire en sorte qu'ils se désintègrent en rentrant sur la Terre. Et donc il faut trouver des solutions pour limiter leur nombre et, si possible aussi, pour aller réduire le nombre, soit aller les chercher ou trouver une solution.
Est-il possible d'envoyer un satellite sans que celui-ci ne fasse de pollution ? Ni qu'il devienne un débris dans l'espace.
Alors effectivement, aujourd'hui, non seulement c'est possible, mais c'est même la loi. Vous connaissez les Nations Unies, hein, qui siègent aux États-Unis, mais qui représentent, c'est une assemblée qui représente tous les pays du monde, qui définit des lois pour plein de choses, qui essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de guerre, qui font des lois contre le travail des enfants, des choses comme ça. Et il y a une partie des Nations Unies qui s'occupe justement des lois de l'espace. Et il y a une loi de l'espace qui existe depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement, qui justement oblige tous ceux qui vont dans l'espace à limiter le nombre de déchets et à faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Et ça, c'est pris en compte par tout le monde, tous ceux qui fabriquent des fusées, ceux qui fabriquent des satellites, justement, pour faire attention à ne pas créer de débris. Ce qui peut se faire de plusieurs façons. Faire en sorte que les satellites ou les fusées n'explosent pas toutes seules. Ou alors, par exemple, il y a des endroits qu'on appelle des orbites cimetières. C'est des endroits où en fait, on peut mettre les objets, les satellites, ou les morceaux de fusées. Un endroit où on sait où elles sont et où on sait qu'elles ne gêneront personne. Pas d'autres satellites ou pas d'autres véhicules spatiaux avec des astronautes, par exemple.
Mais une fois dans l'espace, tous ces débris, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Eh bien, ils tournent autour de la Terre. La plupart tombent tout doucement vers la Terre. Et en fait, plus ils sont loin de la Terre, plus ils vont mettre de temps à retomber sur la Terre et à brûler dans l'atmosphère. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il y en a certains qui, dans les 20 prochaines années, vont disparaître, une certaine proportion. Et d'autres vont mettre beaucoup plus de temps avant de disparaître. Et tellement de temps qu'il faudrait trouver une solution pour aller faire quelque chose, les récupérer, justement pour éviter qu'ils ne se multiplient et qu'ils ne continuent à augmenter en nombre en se fracassant les uns contre les autres.
Mais qui est à l'origine de tous ces débris spatiaux ?
Eh bien, c'est un peu tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est-à-dire toutes les agences, tous les gens qui ont lancé des fusées ou des satellites. Au début de l'ère spatiale, en ce qu'on appelle l'ère spatiale, c'est-à-dire vers le milieu des années 1950, 1960, 70, etc. C'est un peu comme sur la Terre. Sur la Terre, au même époque, quand on avait des déchets, des poubelles, on les jetait dans la nature, on les mettait dans un sac poubelle et les sacs poubelles étaient entassés dans des trous, on appelait ça des décharges et puis voilà, on n'y pensait pas. Et l'espace était pareil, l'espace est tellement grand, on disait bon bah c'est pas grave, on laisse là et puis voilà, il y a tellement de place qu'on ne fera pas attention, que c'est pas bien grave. Et puis au fur et à mesure, on a pris conscience, comme sur la Terre, que ça a beau être grand, c'est pas complètement infini. La Terre a beau être grande, elle n'est pas complètement infinie. On ne peut pas continuer à jeter n'importe quoi, n'importe où. Il faut qu'on fasse attention. Sinon, on vivra dans un monde de déchets. Et donc, dans l'espace, c'est la même chose qui s'est passée. Vers la fin du 20e siècle, la fin des années 1990, début du 21e siècle, début des années 2000, on a pris conscience de ce problème. Il y a des satellites qui ont été détruits par des débris spatiaux. Il y a des missions avec des astronautes qui, heureusement, n'ont pas conduit à des accidents. Mais sur les vaisseaux spatiaux, on a vu des impacts avec des débris qui sont arrivés, qui ont fait des trous dans certains endroits. Et donc, c'est à ce moment-là aussi qu'on a pris conscience que c'était un vrai sujet. Ce n'est pas seulement l'idée de dire « oh, bah, il ne faut pas faire de débris », c'est que c'est un vrai sujet, aussi bien dans l'espace comme sur la Terre, avec tous nos déchets où on fait attention.
Pour poursuivre cette interview, nous allons parler de Stratobus. En quoi consiste le projet Stratobus ?
Alors Stratobus, c'est un dirigeable qui va voler très haut dans l'atmosphère. Donc les dirigeables, ce sont des ballons. On en voit, la grande époque des dirigeables, c'était au début du XXe siècle, dans les années 1930. On voit beaucoup de dirigeables dans les films de Miyazaki, par exemple, hein, Kiki la petite sorcière, je ne sais pas si vous connaissez, ou le film qui s'appelle Le château dans le ciel, par exemple, voilà, on voit des dirigeables. Et c'était la grande époque des dirigeables qui ensuite, on a arrêté d'en faire parce que c'est l'avion qui est devenu le principal objet pour se déplacer dans l'air. Et là, l'idée des dirigeables revient. Donc Stratobus, c'est un ballon, enfin un dirigeable en fait, donc il a cette forme de saucisse, et avec des moteurs, et ce qui lui permet de se déplacer. Donc il sera très haut dans l'atmosphère, et il permettra d'observer la Terre. De faire des observations de la Terre.
D'ailleurs, pourquoi ce nom ?
Pourquoi ce nom ? Alors, c'est une très bonne question, ça. Donc, il y a deux parties dans le mot. Il y a que strato et bus. Alors, strato, parce que là où il va voler, à 20 km d'altitude, c'est une partie de l'atmosphère que l'on appelle la stratosphère. L'atmosphère de la Terre, qui va donc du sol jusqu'à à peu près 140 km d'altitude, après ça devient l'espace, après c'est du vide. Donc, la première partie de l'atmosphère, c'est là où on vit. Donc, c'est là où il y a le cycle de l'eau, hein, que vous connaissez, sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années. C'est là où il y a les nuages, les poussières, les orages, tous ces phénomènes, les vents, tout ce qui vole, que ce soit les avions, mais aussi, et d'abord, les oiseaux, par exemple, vole dans cette première couche. Et ensuite, au-dessus, quand on arrive justement dans des altitudes très élevées, au-dessus de 16 km d'altitude, il y a beaucoup moins d'air. Et on a dû, on peut, nous, par exemple, on ne peut pas respirer là-haut. Et plus on monte, plus il fait froid et moins il y a d'air. Et donc là-haut, il n'y a plus d'oiseaux. Il se trouve que les nuages ne vont pas aussi haut. Et donc c'est pour ça qu'il y a un changement de nom, parce qu'il y a des changements de phénomènes qui se passent. Et c'est ce qu'on appelle la stratosphère. Donc stratobus, le strato vient de stratosphère, cette deuxième épaisseur de l'atmosphère. Et bus, c'est parce que chez nous, à Thales Alenia Space, nous faisons une première activité, c'est de faire des satellites. Et les satellites de télécommunication que l'on fait, ceux qu'on utilise pour faire transférer, pour faire de la télévision, les télévisions qu'on capte avec des antennes paraboliques que vous pouvez avoir peut-être sur vos maisons, sur les immeubles, ou du téléphone. Nos satellites portent un nom, tout comme les avions, il y a des avions qui s'appellent Airbus, donc ils s'appellent A quelque chose. Et nous, nos satellites de télécommunication s'appellent Spacebus. Space pour espace et bus, parce que c'est pas bus au sens français, c'est plus au sens américain, c'est au sens anglais, américain, c'est au sens de fournir, d'être un canal d'échange. Et donc voilà, Stratobus vient de ça pour se relier à notre histoire et aussi à cette nouvelle application stratosphérique.
Est-il favorable à l'environnement ?
Alors, nous faisons attention à ce qu'il n'ait pas d'impact sur l'environnement. Ce n'est pas tellement qu'il est favorable dans le sens où il améliore les choses, mais on fait en sorte qu'il n'ajoute pas de difficultés. Donc c'est pour ça qu'il utilise une propulsion électrique, et non pas avec des moteurs comme les moteurs d'avions ou de voitures, ou sur les dirigeables les premiers, qui étaient des moteurs comme ceux des voitures ou des camions.
Depuis quand travaillez-vous sur le projet Stratobus, et quand se finalisera-t-il ?
J'ai débuté mon activité sur Stratobus en 2016, donc ça fait 3 ans aujourd'hui. Notre objectif est de mettre en vol le premier Stratobus de série en 2023. Donc aujourd'hui, 3 ans, et donc on a encore 4 ans, à peu près 4 ans devant nous, 4-5 ans devant nous pour aller jusqu'à la fabrication de ce premier modèle.
Qui ce projet concernera-t-il ? Y aura-t-il des personnes dans le dirigeable ?
Donc le projet va concerner 3 types de clients potentiels. D'abord, les États. Cela va concerner aussi la science, avec des observations de la Terre, observations du climat, mesures dans l'atmosphère. On regarde l'état des mers, l'état des forêts, l'état des terres. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes. C'est des choses sur lesquelles on travaille déjà beaucoup, nous, ici, dans le cadre de mon activité. Les troisièmes personnes qui peuvent être organismes qui peuvent être concernés, c'est ceux qui font de la télécommunication. Il pourrait, un stratobus au-dessus de Poitiers pourrait permettre de faire des échanges, en fait, au lieu d'avoir des antennes un peu partout dans la ville, eh bien, d'utiliser Stratobus comme étant la seule antenne pour faire des échanges au téléphone portable. Alors, il n'y aura personne dans le dirigeable. En fait, il va aller tellement haut que là où il fait très froid, il fait entre moins 50 et moins 80 degrés, l'atmosphère là-haut. Il y a très peu d'oxygène, donc en fait, on ne peut pas respirer. C'est une altitude où les gens sont en scaphandre. Hein. S'il y a des gens qui vont à cette altitude-là, c'est des scaphandres, ils sont en scaphandre. Donc, c'est ce qu'on voit, par exemple, quand on voit des pilotes de chasse. On voit les pilotes de chasse dans leur avion, ils ont un masque sur la figure pour respirer, et en fait, ils respirent via le masque. Ils ne vont pas aussi haut, mais déjà à haute altitude, on manque d'oxygène. Ce sera un robot piloté par la Terre, par le sol. Et donc c'est vraiment un robot et qui va rester là-haut pendant longtemps. Il va rester en altitude pendant à peu près 1 an, avant de redescendre pour qu'on vérifie un peu tout et avant de le relancer encore une fois.
Un grand merci à Monsieur Le Bleu d'être venu dans notre collège pour nous parler de tous ces sujets et d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt.